Bonjour, bonjour à tous. Mardi 16 octobre 2018, il est 9h, l'heure des voix de service. Je suis Louis de Bernis, bienvenue dans notre émission. Je ne suis pas seul, j'ai avec moi Jean-Charles Algan. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour, très très bien, et vous-même?
Ça va bien. La voix légèrement couverte, comme le ciel hier. J'ai attrapé un petit coup de froid, mais nous avons une belle lumière aujourd'hui. Le temps change. Et deux lumières, effectivement, puisque c'est le retour de notre bien-aimé Jean-Sébastien La Liberté de l'autre côté de la vitre pour les choix musicaux, tout ce qui fait la gaieté de cette émission. Et pendant que nous lisons nos articles, et quels sont-ils aujourd'hui, Jean-Charles ?
Aujourd'hui, la CEPAC devant sa période de réservation à propos de camping.
Mm-hmm.
Et puis, nous allons aussi parler de l'arrivée à New York du plus long vol au monde, qui est arrivé le 12 octobre.
D'accord.
Et puis, si on a le temps, on ira voir ce qui se passe au-delà de la plage. Tout ce qu'on peut faire en dehors des plages quand on va au bord de la mer.
D'accord, on est en avance sur l'été prochain, vraisemblablement, mais on va se préparer à l'avance, effectivement, pour passer un bon été 2019. De mon côté, eh bien, je n'avais pas eu le temps d'en parler la semaine dernière, promis, je vous explique comment gagner 100 000 $ facilement en fouillant dans son jardin.
Et maintenant que vous le dites.
Ben oui, on va aller chercher des pelles après l'émission. également, un article concernant les pizzas à volonté et les problèmes qu'elles peuvent causer parfois. Ça peut se finir au tribunal ou sinon dans un aquarium. C'est un autre de mes articles, un aquarium à requins dans lesquels un monsieur s'est baigné. Ben oui, quelle bonne idée. Voilà pour nourrir, alimenter cette première partie d'émission. C'est dans quelques instants, dans les voies de service.
La CEPAC devant sa période de réservation, de Violaine Belvy. De la presse, l'été 2018 vient à peine de rendre son dernier souffle chaud que la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, recommande aux campeurs de planifier déjà leurs vacances estivales de 2019. Les réservations pour les terrains de camping de l'été prochain débuteront le 27 octobre, soit 4 mois plus tôt qu'à l'habitude. Et encore, ce n'est qu'une période de transition, remarque le porte-parole de la CEPAC, Simon Boivin, puisque dès 2019, les réservations seront acceptées dès le mois de mai pour des séjours réalisés jusqu'à 15 mois plus tard, jusqu'en août 2020. Ce faisant, la CEPAC souhaite regrouper le début des réservations pour la quasi-totalité de ses produits, y compris les chalets de villégiature, les séjours de pêche ou dans les réserves fauniques qui étaient déjà plus hâtifs. Mais elle souhaite aussi s'harmoniser avec ce qui se fait dans l'industrie privée, explique M. Boivin. On peut généralement réserver les hôtels, les avions jusqu'à un an d'avance, parfois plus. Des travailleurs devront ainsi faire leur réservation avant de connaître avec certitude leur date de vacances. C'est évident que si une personne veut un terrain en particulier, l'idéal, c'est qu'elle s'y prenne tôt. Le taux d'occupation des campings de la CEPAC suit une courbe croissante depuis quelques années. Il était de 56% pour les mois de juin, juillet et août 2007, mais ce chiffre inclut tous les terrains, même les plus éloignés et les moins bien desservis, qui sont moins populaires. Les longs week-ends et les vacances de construction sont les dates les plus courues, dès l'ouverture des réservations, anciennement en février. Les dates qui partent en premier, ce sont les dates pour lesquelles la majorité des gens sont en congé. Des mécontents. Adepte de camping de la CEPAC, Guillaume Carrier, depuis plus de 15 ans, déplore ce changement. Avec la majorité des employeurs, les gens ont rarement leurs vacances confirmées avant le mois d'avril. Fini l'improvisation, dit-il, ce sera dur de décider pendant l'été de partir 2 semaines en camping, croit M. Carrier. Simon Boivin croit plutôt que les réservations de dernière minute sont encore possibles. En 2017, près de 40% des réservations dans les terrains de camping ont été réalisées 7 jours avant le séjour, signe que bon nombre de vacanciers préfèrent avoir un aperçu des conditions météorologiques avant de sortir leur carte de crédit. La CEPAC ne dispose pas toutefois d'une donnée plus précise pour les réservations faites pour des séjours le week-end. La CEPAC impose une pénalité de $6.75 pour l'annulation d'une réservation plus de 5 jours avant l'arrivée prévue. Aucun remboursement n'est prévu ensuite. Parc Ontario permet les réservations jusqu'à un maximum de 6 mois précédant le séjour. La pénalité en cas d'annulation est au maximum d'une nuit et 50% de la valeur du séjour prévu. La pénalité minimum est de 8,50 $ plus 10% de la valeur totale du séjour prévu. Parc Canada échelonne généralement le début des réservations de ces différents campings entre le mois de janvier et le mois d'avril pour des séjours faits en juin et septembre. Le calendrier 2019 n'a pas encore été dévoilé. Voilà, c'est ce qui met fin à mon petit article sur la CEPAC devance sa période de réservation.
Et vous irez peut-être au Michigan l'an prochain pendant les vacances.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Eh bien, je vais vous donner une bonne raison d'y aller. Un homme du Michigan a fait une découverte étonnante. La roche dont il se servait comme arrêt de porte depuis des décennies est en fait une météorite valant $100,000. Encore mieux, l'amalgame de fer et de nickel est la 6e plus grosse météorite à avoir été trouvée au Michigan selon le musée de la Central University of Michigan. David Mazurek a raconté avoir apporté son arrêt de porte à l'université pour qu'il y soit examiné après avoir vu un reportage en janvier sur des morceaux de météorites qui s'étaient vendus plusieurs milliers de dollars. « Je me suis dit, attendez une minute, je me demande combien vaut la mienne », a indiqué M. Mazurek. La professeure de géologie Mona Sirbescu a premièrement déterminé que la pièce était plus qu'une simple roche. Elle a ensuite envoyé 2 petits échantillons au musée pour confirmer qu'il s'agissait bien et bien d'une météorite. « J'ai immédiatement su que c'était quelque chose de spécial », a affirmé Madame Sirbescu en observant la roche. « C'est le spécimen le plus précieux que j'ai jamais eu entre les mains, tant sur le plan monétaire que scientifique. » Selon son propriétaire, la météorite faisait partie des objets vendus avec une grange qu'il a achetée en 1988 à Edmore, une ville du centre du Michigan. Il a précisé que le fermier lui avait vendu la propriété et la météorite et était tombé sur cette météorite sur son terrain dans les années 1930. Le morceau aurait été recueilli tout de suite après que les habitants eurent assisté au grand boom et le reste de la météorite aurait été extirpé d'un cratère. D'autres tests devront être effectués pour voir si la météorite contient des éléments rares. La professeure a souligné que la météorite pourrait soit être vendue à un musée et exposée, soit vendue à un collectionneur. Le musée de l'Université de Michigan et un musée du Maine spécialisé en géologie songent à acquérir le spécimen. M. Mazurek a quant à lui assuré que, lorsqu'il vendrait la météorite, il donnerait une partie de l'argent à l'université. Et en tout cas, a-t-il déclaré enfin, je ne l'utiliserai plus jamais comme arrêt de porte. Trouvons un acheteur désormais.
Tout nu comme un ver, tout seul devant l'univers, arrivant de nulle part, brûlant comme un météore, petite comète issue du choc de 2 gamètes. T'es tombé sur la terre, y'a des poussières d'années-lumière. Depuis le jour où t'es né, tu pousses comme une vraie fusée. Pas plus haut que 3 pommes, et pourtant déjà un homme. T'es tellement pressé de vivre, de partir sur ton orbite. Je voudrais pouvoir te suivre, mais tu files ben trop vite. Mon fils pour les étoiles, quand demain tu mettras les voiles. Prends tout ce que je t'ai appris et fonce-toi devant dans la vie. Souviens-toi toujours, les météores naissent de l'amour.
Certains d'entre vous auront peut-être reconnu la voix de Stephen Faulkner et la pièce Le Météore.
Et pendant ce météore, et pendant que Jean-Charles jouait avec son micro, vous l'aurez peut-être entendu, une interruption brève, silencieuse presque, pendant la chanson, eh bien nous avons accueilli notre acolyte Yves-Olivier, bonjour.
Bon matin.
Et
bon
que
matin.
Nous allons cueillir dès le réveil en lançant dans le grand bain sans échauffement. C'est à vous, de quoi allez-vous nous parler, Yves-Olivier?
Alors pour débuter, on parlera d'un texte de Martisson à la presse qui parle de comment s'échapper de son condo. Finalement, mm-hmm. Vous devez s'en débarrasser. Est-ce que vous voulez que je commence par celui-là ?
Je brûle d'impatience. Allez-y.
Alors, pour fuir son condo délabré, une nouvelle propriétaire ne voit qu'une issue, le rétrocéder à son prêteur hypothécaire. C'est Anne-Marie, elle est prisonnière de son condo. « Je voudrais connaître les impacts qu'aurait fait de céder volontairement mon condo au prêteur », demande-t-elle. Elle raconte amère. « En décembre 2014, je fais l'achat de ce qui devait être un beau condo avec une grande terrasse et un garage. » Elle a payé 325 000 $ cet appartement en copropriété indivise. J'y ai mis le maximum de mes épargnes, ma vie va tellement être meilleure ici, me disais-je. À 50 ans, c'est un nouveau départ rempli d'espérance. Le bonheur. Faux. Aujourd'hui, je demeure dans un condo rempli de moisissures, avec un mur de briques et un toit qui menace de s'effondrer, la tuyauterie qui gèle l'hiver et sans le garage que j'ai payé. Le promoteur est mort subitement en juin 2015, ce qui a laissé les propriétaires des condos et sa veuve dans la M. La veuve du promoteur a refusé l'héritage gravé de dettes. L'immeuble est maintenant détenu par une société de financement de la Colombie-Britannique. Anne-Marie n'a pas de recours possible pour des défauts de construction, soutient-elle. Mon avocat a vérifié et ça ne vaut pas la peine. Elle occupe un des quatre appartements de la phase 2 du projet. Deux sont inoccupés, un autre est loué en sous-main par le propriétaire du bar qui occupe le local commercial du rez-de-chaussée. Tout me pousse à partir, à abandonner et cesser de payer mon hypothèque et à absorber la perte financière. Je ne peux pas payer un loyer ou une autre hypothèque si je ne largue pas ce condo. Il reste une hypothèque d'environ 117 000 $ sur une supposée valeur de 325 000 $. Se jugeant incapable de vendre la propriété, elle ne voit qu'une seule issue, la rendre à son créancier. Mais quel serait l'impact sur son dossier de crédit ? Elle se doute bien que l'abandon de son condo affecterait aussi ses projets de retraite. Âgée de 53 ans, Anne-Marie travaille depuis 15 ans pour son employeur actuel. Je pourrais prendre ma retraite dans un peu moins de 2 ans à 55 ans. Peut-être que ce trou va m'en empêcher. Mais je ne veux pas la prendre à 65 ans. Idéalement, ce serait à 57. S'échapper de sa prison. La décision aurait dû être prise il y a longtemps, mais je vivais d'espérance. Je n'en ai plus maintenant, sauf celle de partir d'ici avant la neige. Mais peut-on rendre volontairement sa maison à la banque ? On a de ces cas-là parce qu'il arrive quelque chose, une situation financière précaire, une séparation, une maladie. Répond Isabelle Cochon, directrice du recouvrement pour les prêts hypothécaires chez Desjardins. C'est assez rare qu'on refuse, ajoute-t-elle. Habituellement, on fait évaluer la maison pour voir ce qu'on a à reprendre. Dans les cas où, comme notre lectrice, le solde du prêt est nettement inférieur à la valeur de la propriété, on va conseiller à la personne de vendre la maison par elle-même. On peut l'accompagner. Sinon, il y a deux types de procédures légales. On peut reprendre la maison et ça éteint la dette. Si elle subit une perte, l'institution vérifiera si elle est capable d'aller chercher le manque à gagner d'une autre façon, un jugement personnel, une saisie sur la paix. Il y a une autre procédure. Si nous reprenons la maison et que finalement nous faisons 100 000 $, on va les redonner au propriétaire. Mais c'est rare, je n'ai jamais vu ça. Dans tous les cas, la cote de crédit de l'emprunteur en subira les contre-coups. Une rétrocession volontaire, ça serait un R7, estime Madame Cochon. Par opposition à la pire cote R9, une cote R7 indique que la personne fait des versements réguliers en vertu d'une entente pour régler ses dettes. Règle générale, la cote R7 résultant d'une proposition de consommateur reste inscrite au dossier de crédit pendant 3 ans après le dernier paiement. L'effet sur la capacité d'emprunt dépend de chaque institution financière, souligne Isabelle Cochon. En résumé, il est toujours préférable de s'asseoir avec sa conseillère et d'expliquer ce qui se passe à Vistel.
Arrivé à New York du plus long vol au monde, l'agence France Presse à New York. Le vol Singapour-New York, le plus long trajet aérien commercial au monde, s'est posé vendredi à l'aéroport de Newark après quasiment 18 heures en l'air pour la reprise d'une ligne abandonnée en 2013. Selon le site de l'aéroport de Newark, New Jersey, et celui de Singapore Airlines, le vol SQ-22 est arrivé le 12 octobre à 5h29 local, après avoir décollé à 23h37 à Singapour, soit 17h52 environ de voyage. Selon plusieurs sites spécialisés, notamment Flight Radar 24, le temps effectif de vol serait en réalité plus proche de 17h25. C'est moins que la durée théorique du vol, qui est de 18h25. Durant ce trajet, l'avion a parcouru environ 16 500 km. Le vol était super, calme, plaisant et s'est terminé trop tôt, a déclaré un passager, Danny Wang, à l'arrivée du vol. Passionné d'aviation, cet ingénieur singapourien avait prévu de faire l'aller-retour dans la foulée et devait donc embarquer pour Singapour dès vendredi. Avec ce nouveau vol, Singapore Airlines reprend la première place dans le classement des vols les plus longs. La palme était jusqu'alors détenue par la liaison de Qatar Airways entre Auckland et Doha, d'une durée théorique de 17h40 pour une distance parcourue d'environ 14 500 km. Ce n'est néanmoins pas la première fois que la compagnie propose ce trajet. Elle l'a opéré pendant 9 ans avant de l'abandonner en 2013, quand la flambée du pétrole lui a fait perdre sa rentabilité. Elle utilisait alors un A340-500, un quadrimoteur bien plus gourmand que le nouvel Airbus A350-900ULR. C'est à Singapore Airlines qu'Airbus a livré en septembre son premier A350-900ULR, qui consomme 25% de carburant en moins que ses prédécesseurs. L'A350 est désormais préféré sur le segment des longs courriers à l'A380, un temps considéré comme le produit phare d'Airbus, mais qui s'est révélé trop spacieux, jusqu'à 850 places contre moins de la moitié pour l'A350. « Nous étions excités de prendre ce vol », a expliqué Christopher Aladin. L'aller simple Singapour-New York sur ce vol coûte 2 150 $ environ en classe premium éco, selon le site de Singapore Airlines. En aller-retour, le billet coûte environ 3 500 $, toujours selon le site de la compagnie.
Sur le contrôle, relatons les différences.
On vient d'entendre Thierry Bruyère et la pièce « Quand l'avion se pose ». Moi, je reviens sur ce temps de, que Jean-Charles nous disait, 16 heures en avion. Quand même, là, c'est une journée complète rendue là.
Ah, oui, oui. Mais c'est mieux que de le faire en plusieurs jours avec des escales, mais
et
c'est un
que
choix.
C'est quand même un confort différent que celui de la voiture, parce que 8 heures dans une voiture, il me semble, c'est long, j'imagine pas 16 heures.
Mais là, il y a un confort particulier pour cet avion-là, que je n'ai pas précisé.
Bon, Jean-Charles ira tester ce vol-là et reviendra nous dire ce qu'il en est.
Si Canal M me le finance.
Ça, à discuter hors antenne. Et en sortant d'un vol comme ça, certains auront peut-être faim s'ils goûtent peu à la nourriture là-haut dans les airs. Je leur propose donc la pizza à volonté. Eh bien, la pizza à volonté, ça peut aussi créer des problèmes parfois. Une femme de 41 ans s'est énervée au restaurant Salvatore de Chicoutimi car elle ne pouvait avoir droit à de la pizza à volonté pour emporter. Elle a frappé une cliente avec sa sacoche parce que celle-ci avait osé faire un commentaire. C'est l'affaire qui secoue Chicoutimi dont je vous parle. La Chicoutimienne devra se tenir tranquille pour une période de 12 mois et faire un don de $200 après avoir plaidé coupable, tout de même, à une accusation de voie de fait. La chaîne de restauration rapide offre une promotion de pizza à volonté à ses clients. Si tout le monde peut croire que l'offre est disponible pour ceux qui veulent manger dans le restaurant, l'accusée, elle, et son copain n'ont pas compris la même chose. Selon les informations dévoilées au tribunal devant le juge Paul Guimond de la Cour du Québec, le couple s'est présenté au comptoir et a voulu profiter de la promotion. Mais les deux clients voulaient partir avec les pizzas qui se trouvaient derrière le comptoir. L'employé a mentionné que la promotion était uniquement disponible pour ceux qui mangeaient dans le restaurant, moyennant un surplus pour la pizza à volonté par rapport à une commande régulière. Il a donc expliqué que la promotion ne lui permettait pas de donner toutes les pizzas aux clients pour emporter. Les deux clients, dont les intérêts étaient représentés par Maître Luc Tourangeau, ont entrepris une discussion afin de savoir s'ils étaient pour manger à l'intérieur ou s'ils étaient tout simplement pour quitter, et le ton a monté. Voyant que les choses s'envenimaient, la cliente, qui était attablée tout près, a lancé un commentaire à l'employé. « Une chance que tu n'en as pas dit davantage », a indiqué la cliente. Ce commentaire n'a pas semblé plaire à l'accusée. Celle-ci s'est retournée, a donné un coup de sacoche à la cliente. Le couple a pris rapidement la poudre d'escampette. La victime, choquée, s'est levée et a tenté de prendre en note le numéro de la plaque d'immatriculation. Mais le copain de l'accusée s'est interposé juste avant de sortir en donnant un petit coup d'épaule à la dame. Cela n'a pas empêché les policiers de retracer le duo de mangeurs de pizza et de les accuser aux criminels. La femme de 41 ans a profité d'un sursis de sentence de 12 mois alors que le copain devra effectuer 80 heures de travaux communautaires. Il faut dire qu'il a profité de l'occasion pour régler divers dossiers criminels et donc ce petit coup de coude.
Petite question, avec quoi on fait du pepperoni qu'on met dans la pizza?
Avec plein de choses dont on n'a pas envie d'entendre parler, c'est ça?
Non, le pepperoni c'est du saucisson.
Ouais, donc c'est du porc, non?
Normalement oui.
Normalement oui. Bon, en tout cas, on va parler de porc.
Ah bon,
voilà, exactement, c'était ça ma transition.
Wow.
Des éleveurs aux petits... Des éleveurs aux petits soins. Alors, je vais vous parler de Kim Loranger, une jeune fermière qui a toujours été passionnée par les animaux. Enfin, elle s'amusait avec une truie baptisée Kiki. Aujourd'hui, au commencement, c'est pas des blagues, je suis. Voilà. Enfin, donc, elle s'amusait avec une truie baptisée Kiki. Aujourd'hui, aux commandes de la ferme porcine familiale, la jeune éleveuse en possède tout un troupeau qui donne naissance à plus de 12 000 porcelets. Pour elle, ainsi que les 2 000 éleveurs de porc du Québec, la pérennité du secteur porcin passe par les meilleures pratiques d'élevage, le respect de l'environnement et bien sûr une viande de qualité exceptionnelle. Dès que Kim Loranger met le pied dans la maternité de sa porcherie, les porcelets sevrés accourent vers elle. Les truies, elles, affichent un calme olympien. C'est que la jeune éleveuse sait y faire avec ses porcs. Patiente et attentionnée, elle leur parle doucement, les chouchoute et les nourrit à la main, au besoin. Pour Kim, 25 ans, le bien-être animal va de soi. Élevée sur la ferme fondée par son arrière-grand-père, elle en a même fait son credo en devenant son tour propriétaire. C'était il y a un an. Fraîchement diplômée de l'Université Laval en agronomie, elle souhaitait travailler en production porcine et pourquoi pas investir dans l'entreprise familiale. Son père Luc Loranger et son associé Serge Ménard exploitaient alors la ferme et souhaitaient ralentir leur activité.
Et pour répondre à la question qui brûle toutes nos lèvres, à savoir vraiment est-ce que le pepperoni est fait à base de porc, eh bien oui, c'est un mélange de porc et de bœuf.
Merveilleux.
Ah, merci beaucoup,
Jean-Sébastien. Nous voilà éclairés, nous pouvons partir en cette petite pause. Plus savant et nous revenons juste après, ne quittez pas. Voici, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission avec bien des sujets. Lesquels sont-ils, Jean-Charles ?
Alors, je n'ai pas encore parlé de Au-delà de la plage dont je devais vous entretenir tantôt. Mmh. Et puis, on n'a pas parlé encore de vin aujourd'hui, donc je vais vous parler de répondre à 6 questions fréquentes. Voilà, c'est un peu ça. Excellent. Puis si on a le temps, j'ai plein d'autres petits articles.
Nous vous faisons confiance. Yves-Olivier, de votre côté ?
Alors, je ferai écho à Jean-Charles en parlant de cocktails, qui sont faciles à faire pour épater les amis et la famille. Et on parlera de culture et d'activité dans le coin de la Place des Arts.
Très bien, très bien, très bien. De mon côté, une seconde partie d'émission assez animalière. Nous parlerons du bassin de requins dont je vous parlais. Et puis d'un kangourou aussi. Et puis le plus dangereux des deux animaux n'est peut-être pas celui que vous pensez. Vous allez voir dans quelques instants dans les voies de service.
Au-delà de la plage, sans être un explorateur des temps modernes, il existe tout de même bien des façons de partir à l'aventure lorsqu'on décide de prendre des vacances dans le sud. Il suffit de fouiller un peu pour glisser facilement à son horaire une ou deux activités à la fois intéressantes et différentes. Un texte de Charles-Édouard Carrier, en collaboration spéciale, à la presse. Voyager à pied. Alors, les voyageurs ont l'habitude de se déplacer à pied dans les centres touristiques et les grandes villes. Pourquoi ne pas oser la randonnée d'une journée ou deux en milieu plus rural ? Djad Haddad est directeur des Terres d'Aventure Canada, une agence qui organise des voyages à pied pour tous dans 110 destinations partout sur la planète. Voyager à pied permet de se rapprocher de la nature et des gens. C'est aussi une façon plus lente de se déplacer puisqu'on prend le temps. Il y a cet aspect de proximité lorsque l'on se déplace à pied, explique-t-il. Ensuite, engager un guide local. Selon les complexes hôteliers, les habitués des voyages tout inclus ont parfois des contacts limités avec la culture locale. Alors, pourquoi ne pas demander à un guide local une petite journée de visite ? Selon Stéphane Théier, à la barre de l'émission Guide et Bourlingueur diffusée sur Évasion, ce contact avec les gens du coin est essentiel à tout voyage. J'aime voyager comme ça, rencontrer les locaux, c'est créer une connexion vraie et authentique. C'est là que l'on apprécie la beauté réelle d'un pays. Sans ça, il manque une partie de la connexion avec la destination, croit le voyageur. Puis, la tournée thématique. Avec les réseaux sociaux, plusieurs s'improvisent guides touristiques. Le bon côté de cette nouvelle réalité, c'est la diversité de l'offre de services. Détourner pour prendre les plus belles photos, disais-je, Instagram, d'une région aux balades à pied pour découvrir les œuvres murales d'une ville, l'offre est vaste. Du côté des Caraïbes, je vois que le concept de la virée gourmande se développe de plus en plus. On le propose maintenant dans les tout-inclus, remarque Stéphane Théier. C'est une façon de sortir les gens du complexe tout en leur donnant l'impression de s'imprégner un peu plus de la culture locale. À certains endroits, on proposera aussi des cours de cuisine ou de mixologie. Plusieurs entreprises comme la montréalaise Barefoot Surf Travel, ont créé des camps pour apprendre à surfer. Mais sans y consacrer un séjour tout entier, que peut-on espérer d'un cours de surf de quelques heures ? Les instructeurs locaux connaissent bien les vagues et savent exactement où amener les élèves pour qu'ils puissent monter sur le plancher et goûter à la sensation exaltante de glisser sur l'eau propulsée par la vague. Ils enseignent la base et proposent les lieux adaptés aux débutants. Il faut toutefois être réaliste, la première journée de surf n'est pas nécessairement garante de succès, je confirme. Puis, plonger avec un bonhomme. S'il y a bien quelque chose de spécial à respirer sous l'eau. Les intéressés suivent habituellement une formation complète pour obtenir une certification qui leur permettra de plonger avec un équipement. Les centres PADI, Professional Association of Diving Instructors, offre un cours d'initiation. Discover Scuba Diving, DSD, c'est une formation avec vidéo et instructeur, PADI, d'environ 30 minutes sur terre ferme et une quinzaine de minutes dans l'eau, le tout suivi de la plongée. C'est pour les 10 ans et plus, et valide pour d'autres plongées avec un professionnel pour les 90 jours suivants. La limite de profondeur est de 12 mètres, décrit André Roy, propriétaire du centre de plongée diving pirate à Bocas del Toro. C'est parfait pour goûter à la sensation d'une véritable plongée sans y investir tout son budget de voyage. Et enfin, oser la jungle. Les destinations vacances misent de plus en plus sur des activités où l'adrénaline est à l'honneur et où les vacanciers peuvent découvrir la nature luxuriante d'une jungle de plus en plus accessible. Parmi les activités appréciées des voyageurs, les tyroliennes dans les forêts humides sont maintenant très populaires dans la majorité des destinations du Sud. Au Panama, on peut tenter le Chagres Challenge ou le Chagre Challenge, une journée d'expédition dans la jungle avec escapade, rafting et camping. Il y a de la descente en rappel au Costa Rica, près de San José, du saut à l'élastique dans le canyon de Los Cabos ou encore du surf sur les dunes du volcan Cerro Negro au Nicaragua, énumère Marie-Pierre Lanoux, conseillère en voyage chez Passion Voyage.
Et il y en a un qui n'a pas pu attendre l'été avant de plonger, ça n'était pas dans l'océan mais c'était tout de même dangereux, c'est à Toronto. La police de Toronto recherche l'homme flambant nu qui a sauté dans un bassin de requins vendredi soir dans un lieu touristique populaire de la ville. Les policiers ont été informés vendredi vers 22h30 de l'incident qui s'est produit à l'aquarium Ripley de Toronto. Un porte-parole de la police, Katrina Arrogante, a expliqué que les agents était arrivé 7 minutes plus tard, mais l'homme n'y était plus. Personne n'a été blessé, heureusement, dans l'incident, a-t-elle ajouté. Une vidéo partagée en ligne montre un homme, effectivement, chauve, nageant dans le bassin, alors que des requins et d'autres poissons passent juste en dessous de lui. À un certain moment, on voit l'homme se déplacer sur le bord du bassin sous les rires des curieux. L'individu décide alors de plonger par en arrière, provoquant les applaudissements de la foule un peu inconsciente. À la sortie de l'eau, on peut voir une femme lui tendre des vêtements, il y avait donc un complice, avant qu'il ne quitte les lieux. Selon les vidéos de surveillance de l'établissement, l'homme est arrivé sur place peu après 22h. Après avoir acheté un billet, il s'est immédiatement déshabillé avant de passer par-dessus la barrière de sécurité, a indiqué l'aquarium dans un communiqué. L'établissement dit avoir fourni à la police les vidéos de surveillance et les images captées par les employés et visiteurs. Il ajoute être prêt à porter toutes les accusations appropriées une fois que l'individu sera appréhendé. L'incident est survenu lors d'un événement bimensuel à l'aquarium appelé Friday Night Jazz, où les visiteurs peuvent profiter de spectacles musicaux avec des consommations alcoolisées. De là dire que nous avons un début de piste, l'enquête progresse.
Shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say good night and mean goodbye? Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance, with a clear understanding that this kind of thing can happen? Shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Say good night and mean goodbye. Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? Understanding that this kind of thing can happen. Shall we dance? Dance? Shall we dance?
Shall we dance? J'essaye souvent de trouver des chansons qui sont en lien avec les articles, mais Louis me lance toujours des balles courbes, et puis trouver une chanson qui parle d'un homme nu qui nage avec les requins, c'était un petit peu au-delà de mes talents, donc on est allé avec la pièce Shall We Dance, une reprise de la comédie musicale The King and I, écrite par Roger Hammerstein. C'était interprété par Stacey Kent.
Mais nous sommes connectés, il y avait effectivement, il était question de jazz finalement dans mon article, et j'arrivais à c'est bien imaginer un homme au milieu des requins,
oui,
cette petite musique à ne pas reproduire tout de même. Yves Olivier, nous
écoutez,
vous écoutons.
J'ai décidé de recadrer tout ça. Je pense qu'il y a moyen de proposer des activités un peu plus simples à nos auditeurs et auditrices. Donc revenons à Montréal, au quartier des spectacles, où on vous propose un petit calendrier d'activités. De jour comme de soir, le quartier des spectacles exprime sa grande diversité de prestations artistiques et d'événements. Musique, théâtre, humour, danse, art, visuel et numérique. L'éventail de propositions culturelles est l'occasion idéale pour découvrir, se divertir, chanter à tue-tête ou encore se laisser surprendre. Voici de bons plans pour vos prochains spectacles à Montréal. On commence par le premier jour de la semaine, lundi. C'est la journée de l'impro et du cinéma. Une soirée d'impro, c'est tout indiqué pour amorcer la semaine de manière éclatée, abordable et dans une ambiance festive, comme c'est le cas à l'Abreuvoir ou au Théâtre Sainte-Catherine. Du côté de la Cinémathèque québécoise, c'est sur grand écran que l'on profite des lundis, cette fois pour faire le plein de films et d'émotions. Mardi, dans ses expos, Montréal regorge de talents en art visuel et une visite à la Galerie de l'UQAM et au Belgo, là où les expos contemporains se déploient pour le prouveront. Dans plusieurs salles de la Place des Arts, les vibrantes chorégraphies contemporaines d'ici et d'ailleurs s'extériorisent avec grâce, comme c'est le cas avec les œuvres présentées cette saison par Danse Danse. Le lendemain, mercredi, on est sur scène. Depuis plusieurs générations, le Monument National, salle mythique à vocation multiple, accueille les soirées de celles et ceux qui s'y rassemblent, tant pour des spectacles d'humour que pour des pièces de théâtre ou des concerts. Un mercredi en mode danse contemporaine, comme le propose l'Agora de la danse, est un autre incontournable pour une soirée alliant audace et avant-garde. S'il vous reste des forces, le jeudi, c'est les classiques. Montréal est le témoin privilégié de grands concerts classiques, dont ceux de l'Orchestre symphonique de Montréal et de l'Orchestre métropolitain à la Maison symphonique. Le théâtre est un autre classique du jeudi, cette fois pour s'imprégner de puissantes prestations et de textes marquants offerts au Théâtre du Nouveau Monde ou chez Duceppe. Vendredi, humour et musique vibrante. Annonçateur du week-end, le vendredi est propice à la fête, à l'humour et au rythme chaud des musiques du monde qui appellent au voyage, notamment dans l'espace intime du Jésus ou encore du balcon, qui revêt des airs de cabaret new-yorkais ou de café-théâtre parisien. Et que dire du classique Bordel, comedy club, qui promet des vendredis surprenants. Le week-end, sorti pour petits et grands, donc autant pour Louis que pour Jean-Charles. Les week-ends se vivent en famille et avec une matinée à la grande bibliothèque ou avec la série Son et brioche au piano nobile de la salle Wilfrid Pelletier. La musique se déchaîne au club Soda tandis que les vedettes se succèdent au MTLUS. On termine la fin de semaine en participant au rendez-vous de Tangente pour des dimanches après-midi sous le sceau des chorégraphes contemporains d'ici. Et voilà.
Réponse à 6 questions fréquentes à propos du vin. On le boit pour le simple plaisir, mais le vin, c'est tout de même complexe. Pas étonnant que ceux qui l'apprécient s'interrogent souvent à son sujet, comme ce sont habituellement les mêmes questions qui nous tracassent tous. On s'offre un petit cours de vin 101 avec Maxime Lavallée, sommelier au restaurant Manitoba à Montréal. Mythe ou réalité ? Plus le vin est cher, meilleur il est. Point d'interrogation. Bien qu'il ne soit pas rare de dénicher de bonnes bouteilles à moins de 20 dollars, je pense notamment à certains blancs grecs qui sont surprenants pour le prix. La catégorie de vins oscillant entre 20 et 30 dollars offre le meilleur rapport qualité-prix. Au-delà de 40 ou 50 dollars la bouteille, on est dans une autre logique marchande qui ne garantit absolument pas que le produit soit meilleur. Certains vins de grands châteaux sont vendus 8 fois ce qu'ils coûtent à produire. C'est comme dans tout, on paie parfois le prix fort pour l'étiquette. Deuxième question. bouchon de liège ou capsule dévissable. Les deux se valent, excusez-moi, parce que le liège et son vaste... Parce que le liège et son geste de débouchage font partie d'une tradition de l'art de la table, on associe parfois les bouteilles dévissables à de la piquette. Et pourtant, des réputés châteaux de Bordeaux favorisent ce bouchon pour démontrer que c'est une option valable, même pour les grands crus. S'il y a une chose, la capsule assure que le jus ne sera jamais bouchonné, contaminé par une bactérie dans le liège. Néanmoins, comme son utilisation est récente, seul le temps nous dira si le bouchon dévissable permet au vin de garde de vieillir aussi bien qu'avec le liège. Autre question d'ailleurs, on fait quoi avec un vin bouchonné? Si on a l'impression que, la boisson goûte étrangement le carton mouillé, on a affaire à un vin contaminé par le liège. Ce goût sera d'ailleurs plus prononcé une fois le vin aéré. Rien n'empêche de le boire, décidément, mais ce ne sera pas plaisant. Et rappelez-vous que si un vin n'est pas buvable, il ne sera pas plus meilleur. Il ne sera pas meilleur pour cuisiner. Bref, on ne se questionne pas trop et on rapporte, sans aucune gêne, la dite bouteille à la Société des alcools du Québec, la SAQ, pour un remboursement. Comment conserver le vin d'une bouteille entamée? On replace simplement le bouchon original, ou mieux, on utilise un système muni d'une valve qui permet de faire le vide d'air dans la bouteille. Au contact de l'air, le vin s'oxyde et se dégrade rapidement. Dans de bonnes conditions, il se conservera de 2 à 3 jours. Je préfère mettre la bouteille ouverte au frigo puisque la chaleur est la pire ennemie du vin. Doit-on carafer son vin? C'est du cas par cas. Si on ouvre une bouteille et qu'on aime ce qu'on y goûte, rien n'oblige à transvider le vin dans un autre récipient. Mais si on reçoit, et on peut le passer en carafe pour le plaisir, puisqu'on boit aussi avec les yeux. De façon générale, des vins jeunes profiteront d'un coup d'oxygène pour s'ouvrir et donner plus de plaisir en bouche. A l'inverse, un très vieux vin qui a du dépôt doit être manipulé avec soin. Il est même possible que l'oxygénation lui nuise au point de faire tomber le fruit rapidement. Et enfin, existe-t-il un verre universel pour le vin? Alors, si on veut limiter la verrerie, je suggère, Monsieur Maxime Lavallée nous suggère le Riedel Ouverture Rouge à 14,95 l'unité sur vinhomedesign.com, parfait pour le rouge, le blanc et le rosé. Voilà, c'était 6 réponses à des questions fréquentes. It's up to you.
feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band of sweet red wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just.
Le retour en 1983 avec la formation de reggae britannique, oui, UB40, qui reprenait cette pièce de Neil Diamond, Red, Red Wine.
Belle reprise.
Excellent. Partons pour terminer probablement cette émission en Australie où je vous parle de kangourous. A priori, c'est moins dangereux qu'un requin et pourtant. Trois membres d'une même famille ont été blessés, je dis bien blessés, en Australie par un kangourou qui a finalement battu en retraite sous des coups de pelle. Linda Smith, 64 ans, a été blessée au poumon, aux côtes et a dû être même opérée dimanche au lendemain de l'attaque survenue dans sa propriété de la région de Sarling Downs, dans l'état du Queensland. Elle et son mari, Jim, nourrissaient chaque soir une trentaine de kangourous et wallabies dans leur propriété, les animaux sauvages étant confrontés à des pénuries de nourriture en raison de la sécheresse qui frappe le pays. Un grand mâle, et quand je dis grand, il mesurait 1m80, a cependant attaqué son mari alors qu'il lui donnait à manger, a-t-elle raconté au service ambulancier. Jim était à terre et le kangourou continuait de lui donner des coups. Je suis sorti pour tenter de l'aider en prenant un balai, mais le kangourou est parvenu à me faire perdre le balai et m'a attaqué à mon tour. Madame Smith a réussi à attraper un morceau de bois pour se défendre et son fils de 40 ans surtout est venu à la rescousse en frappant le kangourou à la tête avec une pelle. L'animal s'est ensuite enfui, a indiqué le service ambulancier, précisant que ce genre d'attaque était rare. Madame Smith a indiqué qu'elle ne voulait pas que l'on traque et tue l'animal qui les a attaqués en parlant d'un acte de la nature et en reconnaissant qu'elle savait qu'il y avait un risque avec les animaux sauvages. « Je comprends ce qui s'est passé », a-t-elle dit en expliquant que les kangourous pouvaient être agressifs à la saison de la reproduction. « Je n'en avais toutefois jamais vu d'aussi agressif, il voulait vraiment en découdre ». Rappelons qu'on dénombre quelques 46 millions de kangourous en Australie selon une estimation réalisée l'an dernier par le gouvernement et certains sont donc bagarreurs.
Merci pour les kangourous.
Bon courage pour la transition. Ouais.
Relaxons-nous en cette première vraie journée d'automne avec un punch d'automne. Je vous propose un petit cocktail. C'est le punch d'automne. Alors prenez note. Il s'agit d'un cocktail qui se fait avec une tasse de rhum blanc, 3 canettes de thé glacé de type Nesty, 8 tranches fines de gingembre, 8 tranches fines d'ananas, 8 canneberges, 1 demi-lime tranché finement, 3 zestes avec le surplus de lime, 12 glaçons, le tout dans un pichet ou un bol à punch à combiner tous les ingrédients sauf les glaçons et les zestes.
C'est pour un troupeau de kangourous tout ça.
Non, justement à éviter pour les kangourous hein, parce que mais pour les humains qui viennent de se battre avec un kangourou, s'ils veulent relaxer après, c'est parfait, voilà.
Et merci bien pour ce tour de table où nous avons à nouveau voyagé dans tous les sens. Nous avons même eu droit à du vin. J'avais presque peur en début d'émission, mais on a fini par revenir à un des sujets de prédilection de Jean-Charles.
Mais oui.
Et puis, il ne l'a pas trop dit, mais Yves-Olivier amorce une série de cocktails. Si vous nous écoutez la semaine prochaine, vous aurez droit à un autre cocktail. Alors préparez crayons et papier la prochaine fois pour bien prendre note de tout ça. Remerciements à vous deux, remerciements également à Jean-Sébastien Laliberté qui est de retour parmi nous. Et ça fait plaisir, toujours. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, nous serons bien là, mardi prochain, même heure.
À bientôt Louis.
Bonne semaine, mardi. À bientôt. Bye.